Geneviève est notre invitée. On parlera avec elle entre autres un peu théâtre, mais aussi, vous verrez, du pape. D'être là, merci d'être là en exclusivité parce que votre roman Trace, qui est un roman passionnant, sort en fait le 21 janvier, donc on a un peu d'avance. Je résume donc, c'est une jeune fille qui est prise dans le milieu de la drogue, elle est prise parce qu'elle va aussi être dealer ou dealeuse, et puis elle va tenter de s'en sortir grâce aux sprints, grâce à la course à pied et surtout grâce à un prof. On n'en dit pas plus, mais la première question, pourquoi avoir choisi ce monde de la drogue quelque part et surtout les dégâts qu'il fait dans la société?
Parce que j'ai fait des ateliers dans le centre de Bruxelles et que j'étais confrontée à des jeunes qui étaient en mécanique et il y avait des tas de soucis parce que leur atelier était obsolète parce qu'ils ne s'occupaient que des moteurs thermiques et ils n'apprenaient pas les moteurs électriques. Et donc un jour, il y en a un qui m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, madame, moi je m'en fiche, dans un an, je vends de la coke au coin de la rue et je m'en sortirai très bien. Et ça m'a vraiment interloquée, quoi. Et donc j'ai voulu me pencher sur ces jeunes pour lesquels l'enseignement ne peut pas apporter une réponse, ne peut pas les faire avancer dans la société. Et donc comment est-ce qu'ils trouvent des stratégies pour quand même avoir un futur qui les fasse vibrer?
Et puis il y a quand même quelque chose aussi qui revient régulièrement dans ce roman, y compris dans le milieu de la drogue, y compris par l'intermédiaire d'un prof qui tente d'aider Farkas, cette héroïne, c'est la logique de l'entraide.
Oui, c'est clairement, il y a une solidarité dans ce milieu-là, mais il y a aussi une solidarité dans le milieu scolaire. Ça veut dire qu'on voit ce prof qui essaye de se battre pour proposer autre chose à cet enfant, qui entrevoit un autre avenir pour elle.
Par rapport à ce que vous avez vécu et qui a été le déclic pour écrire ce roman, est-ce qu'on peut vous définir comme une romancière de la réalité ?
Mais c'est vrai que moi, j'interroge le réel pour essayer de comprendre comment fonctionne l'âme humaine. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir aussi les nouveaux narratifs, parce que toutes les émotions, l'amour, la douleur, ont été déjà écrites. Mais notre monde contemporain n'a pas encore été. Et il suscite d'autres trajectoires, d'autres profils. C'est ça qui m'intéresse.
Alors, je l'ai dit, vous êtes romancière, vous êtes comédienne aussi, vous êtes metteur en scène. On va voir un extrait d'une pièce de théâtre qui a été jouée encore très longtemps au théâtre public pendant ces dernières semaines. On regarde.
Comme avant un match, tendez l'oreille.
Rien que pour le stade, ça vous détruit.
Vous êtes perdu, c'est normal. Pas de pelouse, pas de vareuse. Il faut imaginer. Bienvenue au théâtre. On fait comme si.
J'aime le foot.
Elle, c'est Geneviève Dama, fan des Diables, du Ballon Rond et de Kevin De Bruyne. Le mondial l'a fait vibrer.
Mon franc tombe.
Là, c'est Isabelle de Fossé. Tout ce qui touche au stade lui dresse les poils sur les bras.
Quand Courte, mon mec, regarde le Bayern, je me carapate chez ma mère. 22 milliardaires décérébrés qui courent derrière un ballon devant une kyrielle d'abrutis qui hurle en buvant des bières. C'est pas possible.
Et on fait un petit clin d'œil parce que Michel Lecomte, ancien journaliste sportif, patron des sports de l'RTBF, a joué dans cette pièce. Alors si je parle de lui, on le voit là d'ailleurs. Est-ce que c'était une pièce qui parlait Elle a eu beaucoup de succès. Est-ce que c'est une pièce qui parlait uniquement du football?
Non, elle parlait de l'amitié et de l'engagement en fait. De comment on s'engage, quels sont les combats, les défis qui nous portent et qui nous font monter sur une scène.
C'est aussi ce qui transparaît dans votre roman, l'engagement. Il y a ce prof, je ne peux pas tout raconter parce que sinon je trahis, il y a ce prof qui a un rôle extraordinaire, même si à certains moments, il veut la sauver et il a peut-être envie de laisser tomber les bras. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain ou romancière, vous croyez aussi, à un certain moment, on s'en sort parce qu'il y a toujours quelqu'un, on ne s'en sort pas tout seul en fait dans la vie.
Je ne pense pas, on s'en sort parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui voit en nous des choses qu'on ne savait pas de nous-mêmes. Et je pense que si quelqu'un vous regarde en vous disant « ça va marcher, tu vas y arriver », on peut y croire. Parce que souvent, dans la solitude, on se dit que c'est trop dur, que ça n'ira pas, qu'on n'est rien. Et quand quelqu'un nous voit et nous dit « vous êtes quelqu'un, t'as du talent, tu peux arriver à quelque chose », ben on est sauvé, je crois.
D'où l'importance des profs dans l'enseignement en général.
Ah mais ça, les profs, ils font des miracles. Hein. C'est des gens, je trouve, engagés, qui portent, qui se battent. Donc moi,
voilà. Respect, comme on dit.
Un grand respect, parce que j'ai fait plein d'ateliers, je peux dire que des profs extraordinaires.
Et vous continuez à en faire?
Je continue, bien sûr, des profs extraordinaires, j'en ai vu beaucoup, beaucoup.
L'enseignement, c'est quelque chose aussi de vital pour vous?
Je pense que dans une société justement qui est en crise, ben voilà, s'il faut pas lâcher l'enseignement, il faut pas lâcher la culture, il faut pas lâcher le sport, il faut pas lâcher la recherche scientifique, parce que c'est là qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et alors quand on parle justement de la drogue et de ces coups de feu, etc. qu'il y a à Bruxelles, je pense qu'évidemment il faut réprimer. Mais il faut surtout proposer d'autres pistes. Et on se rend compte que souvent dans ces milieux-là, c'est des gens qui ont décroché au niveau scolaire. Et alors, il faut mettre les moyens.
Autre grand moment, c'était le 28 septembre 2024. Vous allez lire une lettre au pape François. Vous lisez une lettre de la communauté de l'Université catholique de Louvain. On écoute.
Où trouver la place des femmes dans l'encyclique? Elles sont absentes de Laudate aussi. Vous soutiendrez peut-être que le soin à la maison commune qu'est notre terre-mère est une interpellation directe à la vocation féminine. Mais n'est-ce pas aussi la vocation des hommes? Quelle place pour les femmes dans l'Église?
Tout le monde vous applaudit et puis vous allez être abasourdi, on peut le dire, parce que le pape va sortir cette phrase terrible, « La femme, c'est d'abord l'accueil fécond, donc elles sont là pour faire des enfants. » Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là?
Mais en fait, c'est en deux temps, parce qu'encore en plus, on ne pouvait pas regarder le prompteur, donc moi, je comprenais un peu d'italien, mais je me dis « Mon Dieu, il me semble que c'est complètement figé dans le temps, parce que moi, j'avais écouté le pape Jean-Paul II, et je sais qu'il y avait la représentante des étudiantes qui avait déjà porté ce combat-là. » Et en fait, j'ai la sensation que des années après, rien n'a changé, une fois que je lis mot à mot. Et donc, c'est vraiment une tristesse parce que...
Parce que c'est un mépris des femmes.
Ben, en fait, l'Église a loupé le coche, quoi. C'est vraiment, on a loupé le coche. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'à la fois, c'est un pape qui a un charisme, qui se bat pour contre la pauvreté, qui se bat pour les migrants, etc. Et qu'il a... Et en deçà de ce qu'on attend, avec une parole quand même d'ouverture et de bienveillance, parce qu'il a été accueilli par la rectrice, qui est la première rectrice de l'Université de Louvain, donc c'est vraiment un camouflet pour elle.
Et puis il y aura encore sa phrase encore plus terrible dans l'avion du retour, où il traitera les médecins qui pratiquent l'avortement de criminels. On va parler d'un autre homme, parce que ça, c'est vous qui l'avez aussi choisi, on le voit. Dites-nous qui c'est.
C'est Mohamed Younous, donc c'est le prix Nobel de la paix qui a fondé les banques Grameen, c'est le banquier des pauvres. C'est un homme qui a dit que la pauvreté n'est pas quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter, mais on peut en venir à bout. C'est un homme voilà, qui s'est battu, qui a été dénigré et qui maintenant est le conseiller principal du Bangladesh. Donc une fois que la première ministre du Bangladesh a été mise dehors, on a été chercher cet homme-là, les jeunes ont été chercher cet homme-là, pourtant il a 85 ans maintenant.
Il ne les fait pas.
Non, il ne les fait pas. Et en fait, c'est un homme qui était au départ un professeur.
Et on y
en
revient.
Fait, voilà, au moment où c'était la famine au Bangladesh, il a dit à ses étudiants, parce que c'est un prof d'économie, ça ne sert à rien de donner cours, on va aller voir et on va essayer de comprendre c'est quoi cette famine qui traverse le pays, c'est quoi la pauvreté. Et donc, il a mis sur pied les banques qui prêtent aux plus pauvres.
Je vais, Dama, une petite surprise.
Oh voilà.
Votre surprise.
Voilà, c'est un extrait du prochain spectacle qui est Respire, qui aura lieu au Tanner. À la mort de mon père, les pompes funèbres nous présentent différents types de cercueils. Bon, je dis la mort de mon père, mais au moment où nous recevons les devis, mon père est encore bien vivant, assis dans le salon. Ça fait 15 jours qu'il a demandé à partir. Il déteste le mot euthanasie et il refuse de le prononcer pour ne pas effrayer ses petits-enfants. Donc ça fait 15 jours qu'il a demandé à partir et comme gouverner, c'est prévoir, maman et moi regardons les prospectus des pompes funèbres. Pour une crémation, nous ont-ils prévenus, ça ne vaut pas le coup d'investir dans un cercueil, il y a 4 choix. Par ordre décroissant de prix, il y a le cercueil en peuplier non traité, circuit court, très écologique, 2 300 €. Le cercueil en bois tropical, circuit long, pas écologique du tout, mais chic, 1 850 €. Le cercueil en osier, teinte nature ou miel, un peu corbeille à linge, 1 750 €. Le cercueil en aggloméré, décliné en 3 couleurs, comme chez Ikea, noir, blanc, nature. Ma mère regarde les devis, elle chausse ses lunettes, les autres, les remet. Je pose ma main sur la sienne parce que quand même, c'est quelque chose de choisir le cercueil de l'homme avec lequel on vit depuis 55 ans. Je demande « Ça va, maman ?» Elle me regarde « Qu'est-ce que t'en penses ?»« C'est toi qui sais, maman ?» C'est quand même cher hein, pour 24 heures dans une boîte. Elle demande à mon père, chéri, pour le cercueil, je fais quoi? Ce qui te fait plaisir, ma chérie. Personnellement, je m'en fiche, je ne serai plus là. Et ma mère répond aux pompes funèbres, je vais réfléchir.
C'est votre prochaine pièce.
En mars.
Merci pour cette improvisation. On doit un peu avancer. Votre coup de cœur, il va démarrer. C'est l'extrait d'un film tout de suite. On regarde.
Il y en a.
Eu matava ele com martelo.
Tu anda armado?
Não, mas eu sei usar um martelo.
Alors, l'agent secret, ça a l'air très dur quand même.
Oui, mais c'est drôle.
Oui, mais...
Les images sont d'une beauté incroyable. Ça parle du Brésil en 1977. Un homme qui revient à Recife, il est poursuivi. Il veut juste récupérer son garçon et partir avec lui à l'étranger. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait, pourquoi il est recherché. On passe beaucoup de temps dans le film à essayer de comprendre. En fait, ce n'est pas ça qui est important. C'est cette société, c'est le courage de se battre. C'est quand même aussi la dictature qui est là. C'est un film de 1977 et en même temps, il parle incroyablement de maintenant, porté par un acteur mais magnifique. Il est ce film a eu deux prix à Cannes.
À Cannes.
Voilà, franchement, je vous le recommande.
C'est un peu vous, ça, rapidement. C'est grave, mais il faut quand même en rire parfois.
Ah oui, moi, je trouve que le rire, c'est quand même une forme d'élégance, de légèreté.
Vous savez ce qu'a dit Charlie Chaplin, hein, une journée sans rire est une journée perdue.
Oh, bah, je crois bien.
Alors, question avant, on faisait les questions vache ou pas vache. Je vous demandais de choisir. Maintenant, c'est devenu question un peu piquante. Vous êtes chez Grasset. Vous avez quitté Gallimard. Grasset, c'est la maison de quelqu'un qui s'appelle Vincent Bolloré, qui est taxé parfois d'être un patron d'extrême droite. Ça vous gêne pas un peu aux entournures ?
On résiste. Et je pense que toute l'équipe et Olivier Nora se battent comme des beaux diables. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui voulaient sa tête et il est toujours là.
Vous ne parlez pas de Vincent Bolloré, vous parlez de...
Non, d'Olivier Nora. Ouais. Et je pense que quand vous voyez le catalogue de ce qu'il publie, mon Dieu, quoi, c'est vraiment engagé et à fond.
C'est-à-dire que dans le monde de l'édition, il faut aussi se battre contre les idées extrêmes ?
Ah oui, à fond.
C'est votre combat ?
Ah ben je crois, mais évidemment. Et je pense que la difficulté, évidemment, de Grasset, des grandes maisons d'édition, c'est qu'elles sont souvent adossées à des groupes financiers pour tenir, comme la presse, comme, et qu'à un moment, il faut garder la liberté de parole. Et en tout cas, voilà, chez Grasset, on s'y emploie.
Allez, on va terminer avec une dernière question piquante. Ce que vous détestez le plus au monde ?
J'imagine que c'est la méchanceté, j'imagine que c'est le racisme, j'imagine que c'est la condescendance et la bêtise.
C'était une émission, on a beaucoup parlé bouquins et donc merci.